Bonjour Benoît.
Bonjour Lucas, bonjour à toutes et à tous. En Turquie, le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Istanbul est-il celui de dangereux terroristes ou celui de la presse libre ? Plusieurs journalistes et dirigeants d'un des derniers quotidiens indépendants du pays sont jugés à partir d'aujourd'hui. Certains sont déjà en prison depuis de longs mois. Leur journal, Cumhuriyet, pourrait ne pas se remettre de cette nouvelle attaque du pouvoir dans un contexte sécuritaire lourd. Correspondance dans un instant d'Alexandre Billette.
Les ministres de l'Intérieur de la Méditerranée centrale se réunissent aujourd'hui à Tunis dans l'espoir d'avancer des solutions à la crise des migrants. L'année 2017 pourrait devenir la plus meurtrière pour les migrants en Méditerranée. L'Europe presse notamment la Tunisie de faire plus. Ce sera difficile, d'après les représentants de la société civile turque. Reportage de Maureen Mercier.
La réforme du code du travail arrive en séance au Sénat aujourd'hui. La semaine dernière, en commission, les sénateurs ont remanié les textes du projet de loi d'habilitation qui permettra la réforme par ordonnance. Explication de Clara Lecoq-Réal. Et puis la BBC dans une situation embarrassante. Le groupe audiovisuel britannique a été contraint de rendre public la semaine dernière les salaires dépassant les 150 000 livres ainsi que les noms des bénéficiaires de ces salaires. Depuis, la BBC fait face à de nombreuses accusations de sexisme et de discrimination. Explication de Marina Daras. Un des derniers journaux indépendants de Turquie devant la justice aujourd'hui est directement menacé par le pouvoir. Plusieurs journalistes, dirigeants ou salariés de Cumhuriyet, quotidien souvent très critique à l'égard du président Recep Tayyip Erdogan, sont accusés d'avoir aidé des organisations terroristes. Les soutiens du journal dénoncent un procès politique et l'ONG Reporters sans frontières, par la voix de son secrétaire général Christophe Deloire, parle d'un procès du journalisme en Turquie. Écoutez les précisions d'Alexandre Billette, correspondant de RFI et de France Culture à Istanbul.
Pour ce procès, 19 personnes sont accusées, notamment de soutenir trois organisations terroristes, le PKK, les putschistes proches de Fethullah Gülen et un mouvement d'extrême gauche. Pour la journaliste de Cumhuriyet Mine Kılıkkanat, cet acharnement contre le journal a une origine lorsque le quotidien a publié les caricatures de Mahomet.
Tout a commencé avec la publication de Charlie Hebdo. C'est ça que, au départ, le gouvernement et les islamistes ne pardonnent pas à Cumhuriyet.
Depuis, le journal est dans le viseur des autorités, à tel point que le vieux quotidien fondé en 1924 pourrait bien ne jamais s'en remettre.
Les finances de Cumhuriyet vont très très mal depuis ses arrestations. Aucune société privée ne donne de publicité à Cumhuriyet maintenant. C'est pour cela que les choses aussi vont mal. Les gens ont peur. On ne sait pas combien de temps on pourra résister.
Cumhuriyet est un quotidien farouchement laïque, très intello, assez bourgeois. À travers ce procès, c'est toute l'élite libérale opposée à Recep Tayyip Erdogan qui se sont jugés aujourd'hui.
Et pendant ce temps, Recep Tayyip Erdogan continue sa tournée. Il a entamé hier une médiation entre les différents pays du Golfe. Il est arrivé hier soir au Koweït après une première escale en Arabie Saoudite dans la journée. L'homme fort d'Ankara espère pouvoir faire retomber la tension qui croît entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, et l'Égypte également. Pour lui, personne n'a rien à gagner à voir cette crise se prolonger. Et pourtant, pour l'instant, elle se prolonge. Et puisque tous les coups sont visiblement permis, les voisins de Doha font désormais tout pour faire annuler la Coupe du Monde de foot prévue en 2022 au Qatar, précisément. Christian Cheneau.
En coulisses, l'Arabie Saoudite et les Émirats bombardent la FIFA de messages lui demandant de priver Doha de l'organisation en 2022 de la Coupe du Monde de football. Après la fermeture de la frontière terrestre avec le Royaume saoudien, le Qatar a dû réorienter ses filières d'importation, explique Ghanem El Kouari, un des responsables de l'organisation du mondial.
Nous avons trouvé des matériaux de base de meilleure qualité et tous les éléments essentiels pour la construction de nos nouveaux stades viennent de chez nos partenaires en Europe, en Chine ou dans le Golfe, comme Oman ou la Turquie.
Selon lui, il n'y aura pas de retard dans la réalisation des 8 stades exigés par la FIFA.
Nous avons lancé tous nos contrats pour la construction des stades. Nous avons fêté l'inauguration du stade Khalifa en mai. Il est doté d'une nouvelle technologie de climatisation, une première mondiale, ainsi que d'une nouvelle technique d'éclairage et de sonorisation. Dans le stade Khalifa, il n'y a que du high-tech. Ce sera la Coupe du Monde la plus extraordinaire.
En attendant, L'Arabie Saoudite et les Émirats n'ont pas l'intention de relâcher la pression sur le Qatar, qui doit accueillir les mondiaux de gymnastique l'année prochaine et les championnats du monde d'athlétisme en 2019. Autant de répétitions grandeur nature avant la Coupe du Monde 2022.
Un attentat à la voiture piégée a fait plus d'une vingtaine de morts ce matin à Kaboul. Le bilan, encore imprécis, est communiqué par le ministère de l'Intérieur afghan. C'est un quartier à majorité chiite qui a été visé dans l'ouest de Kaboul. La réunion du groupe de contact des ministres de l'Intérieur de la Méditerranée centrale, c'est aujourd'hui à Tunis, en présence notamment de Gérard Collomb. L'objectif de cette réunion, trouver des solutions pour réduire le nombre de morts en Méditerranée entre la Libye et l'Italie. Alors que 2017 est en passe de devenir l'année la plus meurtrière pour les migrants, plus de 2200 personnes sont à ce jour décédées ou portées disparues depuis le mois de janvier, chiffre de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. En réalité, l'Europe veut pouvoir compter davantage sur la Tunisie pour endiguer le flot des migrants, mais pour les représentants de la société civile tunisienne, c'est impossible. À Tunis, le reportage de Maureen Mercier.
La Tunisie peine à retenir ses propres jeunes. Même si le nombre de départs n'a rien à voir avec celui suivant directement la révolution de 2011, ils sont encore quelques centaines, selon les ONG, à tenter la traversée chaque année. Et la Tunisie tente aussi de réussir son processus démocratique qui a tendance à s'enliser. Les caisses de l'État sont vides. Dans ces conditions, comment prendre en charge des migrants subsahariens qui transitent par le pays ? Pour Malek Kefif, membre du comité directeur tunisien pour les droits économiques et sociaux, l'Europe propose des solutions irréalistes.
Nous n'avons pas encore de cadre légal pour accueillir ces émigrés, pour les protéger. Nous n'avons pas de loi d'asile. Nous n'avons pas de centre vraiment d'accueil digne de ce nom.
Pour Lilia Rebaille, directrice du bureau Tunisie du réseau Euro-Méditerranée des droits humains, non seulement la Tunisie n'a pas les reins assez solides, mais selon elle, la politique européenne qui cherche à mieux contrôler les côtes nord-africaines dans le but de bloquer les embarcations, cette politique n'aura pas le résultat escompté.
Ça poussera les trafiquants à choisir des voies de plus en plus périlleuses, et donc ça ne fera qu'augmenter le nombre de morts en Méditerranée. Les statistiques le montrent, on n'arrêtera pas la migration de cette manière-là. On ne fera qu'augmenter le nombre de morts.
La preuve, pour Lilia Rebaille, depuis l'accord migratoire entre la Turquie et l'Union européenne pour bloquer les arrivées sur la Grèce, les migrants se rabattent sur une voie bien plus dangereuse, la voie Libye-Italie, celle qui occupe justement aujourd'hui les ministres.
Réunion de crise à l'ONU aujourd'hui, à l'appel de la France, de la Suède et de l'Égypte. Le Conseil de sécurité doit se pencher sur le cycle de violences meurtrières en cours au Proche-Orient. Pour les seules journées de vendredi et samedi, ces violences ont fait 8 morts. Elles sont liées au contrôle institué par Israël aux abords de l'esplanade des mosquées. Hier, une attaque dans l'ambassade d'Israël en Jordanie a fait 2 morts. Même si on ne sait pas pour le moment si cette fusillade est liée aux tensions à Jérusalem. C'est une semaine décisive qui s'ouvre dans la crise au Venezuela pour tenter de bloquer le vote prévu dimanche prochain, censé doter le pays d'une assemblée constituante. L'opposition multiplie les actions. Elle a lancé un appel à la grève générale pour 48 heures, mercredi et jeudi. Et elle espère organiser une grande manifestation à Caracas vendredi. Ce qui n'impressionne pas Nicolas Maduro, le président chaviste, qui hier, dans son émission hebdomadaire à la télévision, a une nouvelle fois accusé les États-Unis de tirer les ficelles de cette crise.
8h08, la suite du journal de Benoît Bouscarel et on retourne en France.
La réforme du Code du travail arrive au Sénat. Le projet de loi d'habilitation qui permettra la réforme par ordonnance est examiné à partir d'aujourd'hui. La semaine dernière, en commission, les sénateurs ont remanié les textes en accordant encore un peu plus de flexibilité aux entreprises. Les explications de Clara Lecoq-Réal.
La majorité sénatoriale, de droite, parle d'un enrichissement du texte, quand les communistes, au contraire, dénoncent un durcissement, concernant notamment la rupture du contrat de travail. Et la commission des affaires sociales du Sénat souhaite en effet que le salarié victime d'un licenciement économique ne puisse le contester devant les prud'hommes que dans un délai de 6 mois, et non d'un an, comme aujourd'hui. Elle veut aussi que le patron n'ait plus besoin de lancer un plan de sauvegarde de l'emploi si un de ses employés refusait un nouvel accord d'entreprise. C'est en simplifiant les départs et les licenciements qu'on facilite ensuite la création d'emplois, justifie le rapporteur du texte, Les Républicains, Alain Milon. Autre point épineux, la représentation des syndicats au sein même de l'entreprise. Le Sénat n'a finalement pas touché aux seuils sociaux qui, au bout de 11, 50 ou 200 salariés, donnent de nouvelles obligations à l'employeur. Ça reste un point de réflexion. Mais les sénateurs ne renoncent pas à l'idée d'un référendum à l'initiative de l'employeur. Une ligne rouge pour les syndicats et pour la ministre du Travail qui devrait être retoquée à l'Assemblée la semaine prochaine.
Et à l'Assemblée, c'est aujourd'hui le premier jour d'examen des textes de loi de moralisation de la vie publique. Ces deux projets de loi modifient les règles de financement des partis et des campagnes électorales. La reprise et l'avenir de GMS au menu du tribunal de commerce de Poitiers aujourd'hui. Il doit statuer sur la seule offre de reprise de l'équipementier encore existante. Le sort des 277 salariés du deuxième employeur privé de la Creuse est suspendu à cette décision. L'égalité des salaires entre les femmes et les hommes est toujours aujourd'hui un objectif, voire un horizon, rarement une réalité, y compris dans des sociétés publiques. Et le secteur de l'audiovisuel n'est pas épargné par ce problème. En Grande-Bretagne, la BBC nous le rappelle ces jours-ci. Hier, des journalistes et présentatrices des différentes chaînes d'information britanniques ont lancé une pétition pour que l'égalité n'attende pas et qu'elle se fasse maintenant. Il faut dire qu'entre la présentatrice la mieux payée et le présentateur le mieux payé, l'écart est actuellement de 1 à 5, l'écart de salaire. Il faut dire que la BBC a été contrainte de publier ses salaires la semaine dernière. Écoutez à Londres les explications de Marina Daras.
C'est une révélation qui a poussé une quarantaine de présentatrices, animatrices et personnalités journalistiques de sexe féminin travaillant pour la BBC à adresser une lettre ouverte à leur direction réclamant une action immédiate pour faire face à l'écart salarial entre hommes et femmes. La société britannique s'était déjà engagée à rétablir une certaine parité d'ici à 2020, mais les chiffres montrent que l'on est bien loin d'atteindre l'équité et pour cause le salaire du présentateur le mieux payé de la BBC est 5 fois supérieur à celui de son homologue féminin. Dans la liste des 96 personnes concernés par cette nouvelle réglementation sur la publication des plus hauts salaires, seulement un tiers sont des femmes. Et il faut attendre la 9e place pour trouver la première d'entre elles, la présentatrice de télévision Claudia Winkleman, avec un salaire de 450 000 livres par an. Interviewé sur les ondes de la BBC Radio 4, le directeur général Tony Hall s'est engagé à aller plus vite et plus loin pour changer la situation, mais a tenu à souligner que l'écart salarial entre les hommes et les femmes à la BBC, qui est de 10% en moyenne, était moins important que l'écart national, qui atteint lui les 18%. Mais les différences de rémunération ne sont pas essentiellement fondées sur le sexe. Sur les 20 salaires les plus élevés, toutes les stars sont d'origine caucasienne. La première star issue d'une minorité ethnique a figuré dans cette liste de privilégiés est le présentateur du journal télévisé George Alagiya, un Britannique d'origine sri-lankaise qui occupe la 25e place seulement.
Les explications de Marina Daras. La Mongolie a décidé de faire appel à l'ONU et aux ONG internationales pour faire face aux effets du réchauffement climatique. Ils sont très sensibles dans les steppes et perturbent grandement la vie des éleveurs nomades. Depuis 2 ans, le ZEUD, mélange de phénomènes climatiques extrêmes, pousse les éleveurs à un exode rural forcé, exode que le gouvernement a bien du mal à gérer. Reportage dans le sud-est de la Mongolie, à environ 300 km de la capitale Oulan-Bator, de Solène Le Hen.
Choir, c'est un lieu étonnant. Imaginez une ville au beau milieu d'une interminable steppe déserte, aux brins d'herbe aussi rarissimes que la pluie en été. Une ville faite de barres d'immeubles délabrés, avec autour des cabanes de tôles et de bois. Boursouflure de 13 000 habitants au milieu de nulle part, cette ancienne garnison de soldats soviétiques grandit chaque jour un peu plus. Ravluk Chao a fait partie du flot des migrants.
Comme beaucoup, moi, je suis venu ici car j'ai perdu une grande partie de mon troupeau à cause du ZEUD. En ville, nous, les anciens éleveurs nomades, on a peu de chances de trouver du travail. Après beaucoup d'efforts, j'ai fini par trouver un emploi de charpentier pour la compagnie de chemin de fer.
Le ZEUD, les anciens l'attendaient une fois tous les 10 ans. Avec le réchauffement climatique, le voilà une deuxième année d'affilée et peut-être même bientôt une troisième. Le ZEUD, c'est un hiver rigoureux qui succède à la sécheresse d'un été caniculaire. Les troupeaux des nomades n'y survivent pas, les carcasses jonchent le sol. Alors comme seul recours, il y a la ville, explique Oyentol Dougarjav, responsable local de l'ONG internationale Vision du Monde.
La ville grossit jour après jour. Pour les anciens éleveurs nomades, trouver un travail est quasiment impossible. Il n'y a que des emplois de fonctionnaires, il faut avoir fait des études. La vie pour eux est dure. La pauvreté, l'alcool, la violence, la perte de l'estime de soi. C'est pour ça qu'on les encourage à rester éleveurs. Notre ONG leur donne du bétail, leur prête des tracteurs pour faire du fourrage et les aide à se diversifier en commercialisant des produits laitiers, par exemple.
Avec une aide financière, Ravluk Chao, l'ancien éleveur nomade, a monté son entreprise de charpenterie.
Mon ancienne vie d'éleveur, le grand air et les animaux me manquent. Alors j'espère que bientôt je pourrai redevenir nomade avec un troupeau, tout en étant charpentier. Comme ça je pourrai doubler mon revenu.
Bien sûr, maintenant il faudrait y mettre les moyens financiers, mais les ONG, le gouvernement et l'ONU en sont déjà convaincus. La diversification des revenus pour les nomades, c'est la clé face au réchauffement climatique, la clé pour qu'en Mongolie, d'autres villes comme Choyr ne deviennent pas à leur tour des fabriques à pauvreté.
Reportage de Solène Lehen. Un temps toujours frais et perturbé aujourd'hui, souvent pluvieux, notamment sur les reliefs. Au sud, les nuages resteront inoffensifs, mais le vent soufflera avec des rafales approchant les 100 km/h sur la côte varoise. Température maximale, pas plus de 21 degrés près de la Manche et sur l'île de France, jusqu'à 24 degrés ailleurs et de 30 à 32 degrés sur le sud et sur la Corse.